entendu ce qu'il a dit. La fête est finie.
Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin?
D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment.
Hello Frédéric.
Salut Alexandre.
Ça va?
Ouais, ça va bien.
Bon, eh ben écoute, je suis hyper content de te recevoir sur ce nouvel épisode de TechSource où tu vas nous faire le plaisir de partager avec nous tes sources.
Mes sources.
Voilà, ta stack, comme on dit. Dans les premiers épisodes, on disait, tu vas vider ton stack. Eh bien, j'espère que ton stack sera une hotte. On s'approche de Noël, là, vite fait. J'en doute pas. Frédéric, vrai ou faux, tu es belge?
Je suis belge.
Vrai ou faux, tu as déjà écrit un bouquin?
J'ai déjà écrit un bouquin. Co-écrit un bouquin.
Ah, un super bouquin, ouais. Super playbook.
Un playbook, ouais, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Ouais.
Vrai ou faux, tu as œuvré dans tu as été consultant?
Je suis toujours.
Tu es toujours consultant?
Je suis toujours consultant.
Le KM, le Knowledge Management, c'est quelque chose qui te parle?
Ça me parle énormément et encore, je sors d'une réunion sur le sujet.
Ouais. C'est vrai?
Oui, oui, oui.
D'accord. Vrai ou faux, tu détestes les communautés de pratique?
J'adore les communautés de pratique. J'adore et je reste parfois un petit peu sur ma faim.
Ouais.
Je voudrais en voir plus, ouais. Ouais, ouais. Ouais, je pense qu'en franchement, il y a un énorme potentiel sur les communautés de pratique. Étrangement, c'est très trendy, en tout cas dans l'environnement dans lequel je navigue pour l'instant. Chez mes clients, c'est très trendy, mais on n'est qu'au début, à mon avis. On n'est qu'au début, et certainement, si tu mets ça en relation avec ce qui se passe dans le monde du média social, on va en parler, hein. Mm-hmm. Dans le monde du média social, je pense qu'il y a un appétit, même parfois pas encore défini par les futurs possibles utilisateurs des communautés de pratique, il y a un appétit qui grandit, ouais, sur l'utilisation de ces communautés.
En fait, on s'est croisé surtout sur ce sujet, hein, sur le sujet des communautés de pratique. Il y a mille choses à dire sur les outils aussi qui permettent de voilà, on est à l'heure de l'intelligence artificielle. Il y a mille questions à creuser sur ce sujet-là. Mais bon, voilà.
Oui.
Les gens ont compris un peu ton profil. Première question, qu'est-ce que tu as sur la home screen de ton téléphone? Que tu as comme app?
Est-ce que je vais avoir honte? Attends, comme sur, je déroule le truc. Alors, sur la home screen, la première home screen, j'ai un widget tout nouveau.
Ouais.
Ah ouais, j'ai toujours détesté ça.
C'est un iPhone. Hein?
C'est un iPhone.
Ok.
Ouais. Et donc, j'ai le widget de Spotify.
Ah, le widget, c'est pas l'app, c'est le.
Le widget, ouais, le widget avec.
C'est là où t'as l'app.
Ce que j'ai écouté, il va me demander, t'as écouté quoi? Voilà, ça a coûté bien. Donc, j'ai le widget, j'ai.
Donc, tu voyages pas mal.
Je voyage pas mal dans ma tête.
Dans ta tête.
Dans ma tête, ouais, je voyage pas mal dans ma tête. J'écoute énormément Spotify, en fait.
Okay.
Toute la journée.
Ok.
Des millions d'heures. C'est le concours à la fin de l'année avec mes enfants pour savoir combien de dizaines, milliers d'heures on écoutait des podcasts, de la musique, etc. Et je gagne. Ouais, je gagne pas mal.
Effectivement.
Donc Spotify, effectivement, parce que c'est l'app que j'ouvre le plus sur une journée. Et je bosse pourtant, hein, mais entre des réunions, j'adore, j'ai besoin d'écouter de la musique ou un podcast, etc. Et certainement, quand je bouge, même sur mon vélo, en fait, j'écoute un podcast. Je suis le seul qui fait du sport en écoutant un podcast culturel, par exemple. J'ai pas besoin de musique qui fait bon. Donc voilà, et puis il y a l'application photo, parce que j'utilise ça énormément, en fait. L'application. Enfin,
pas que pour des photos, en fait. Tu l'utilises pour.
Je fais énormément de screenshots.
Ah, c'est ça.
En fait.
Des fois, c'est involontaire. Non? Moi, ça m'arrive d'en faire beaucoup involontairement.
Ouais, parce qu'en plus,
là, rempli de.
Ouais, et puis j'ai mis l'option, tu sais, où tu tapes trois fois sur le dos de ton iPhone et donc il prend un screenshot.
Ah oui.
Et du coup, si tu laisses tomber ton iPhone rapidement sur une table, parfois il prend un screenshot du truc.
Ouais, voilà.
Donc, je prends beaucoup de screenshots sur mon iPhone, mais aussi sur mon ordi, etc. Et comme tout est assez bien synchronisé, forcément, voilà, ça me permet en fait de revenir. C'est des petites habitudes, hein, de revenir à la fin de la semaine sur les screenshots que j'ai fait pendant la semaine, en général de les détruire, mais souvent de me souvenir d'un truc que j'avais vu.
Ouais.
Voilà. Donc j'ai les photos et l'appareil photo, puisque je prends donc aussi pas mal de photos, Safari.
Ouais.
les contacts. Non, en fait, c'est hyper basique. Hein. Les contacts, Safari. Alors, c'est
WhatsApp, peut-être. Hein. Hein.
Non, alors, WhatsApp, je m'y remets hein, depuis peu. J'ai horreur de ça. Donc, il est effectivement dans le bas de mon iPhone. Puisque j'ai eu des remarques de mon entourage me disant que je ne répondais jamais au WhatsApp
pour le coup parce qu'il était à la
rapproché.
Tu l'as bien après la page
3, ouais, voilà. Mon calendrier est très important parce qu'en fait c'est en gros la seule chose sur laquelle tu as réellement encore du pouvoir, c'est sur ton calendrier. Supporte pas qu'on gère mon calendrier, c'est hyper important. Et puis j'ai voilà, la première application non iPhone, enfin non Apple, et c'est quasiment la, non c'est pas la seule quand même, c'est Things qui me permet de gérer mes tâches.
Donc c'est Things, je connais pas ça.
Non,
c'est gestion de projet.
Cette petite icône là. Non, c'est une gestion de tâches de culture et
c'est rare.
OK. Qui a été bien mise en avant par Apple lui-même. C'est je pense encore
c'est une to-do list quoi.
C'est une to-do list. Mais ça fait super bien boulot, le design est juste parfait et je trouve qu'en termes de je suis belge hein, donc je fais beaucoup de franglais, j'allais dire usability mais en termes d'usage, effectivement, elle correspond tout à fait.
Et tu peux affecter des tâches à quelqu'un ou ça va dans
non,
ce niveau
de... Non, c'est vraiment pour
toi. Ouais. Okay, ouais. Ouais, ouais.
Mais ça te permet de noter tout. Ça te permet de noter tout, de les mettre dans des boîtes, entre guillemets, de définir si tu dois le gérer à une certaine date, d'avoir des rappels, de dire que tu dois avoir. Que tu le feras peut-être un jour. En fait, tout ce que je vois passer, et on va revenir sur l'apprentissage personnel plus tard, mais tout ce que je vois passer en fait arrive dans ma web things, puisqu'en fait si tu tombes, si on te parle d'un service, d'un site web ou autre, pendant la journée entre deux réunions ou même pendant une réunion, etc., t'as pas le temps d'aller la voir, t'as pas le temps de la... voilà, et puis je vais pas encombrer, je dirais, mon personal management, knowledge management de
tout et de choses.
Donc je le note dans mon things et j'y reviens plus tard. Ça me permet de me souvenir toujours de ce dont on m'a parlé et de décider si je le conserve ou pas.
Donc toi, c'est things. Alors il y en a beaucoup là. Les précédents, c'était notes. J'utilise pas mal de notes.
Alors j'utilise énormément notes aussi, mais
ça vient après dans le process.
Ah ok, d'accord. Ouais.
Donc le premier jet, c'est là. Tu sais que tu mets tes petits et tu les retrouves tout le temps dans things.
Ouais.
Et deuxième passe.
Ouais, j'aime beaucoup notes, j'avoue. Mais c'est récent.
Ah oui?
Parce que j'utilisais une app jusqu'il y a peu, de manière un peu compulsive, hein, qui s'appelle Day One.
Oui, c'est un journal.
Un journal.
Intime, même.
Un journal intime et que j'utilisais, en fait, pour ma vie professionnelle.
Ouais.
Donc, je notais tout, il y a des tags, etc. C'était vachement bien.
Ouais.
J'avoue que j'ai un peu quitté, parce que dans notes, finalement, maintenant...
C'est quoi le delta entre...
Ouais, tu as du tagging, etc. Tu peux quand même bien organiser les choses.
Ça s'améliore depuis quelques années.
Ça s'est vachement amélioré. Donc là, Apple va bientôt sortir une application de journal aussi.
Oui, je sais pas si qui n'est pas sortie encore, on est d'accord.
Non,
tous les jours, je suis là.
Alors, il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. Il l'avait annoncé pourtant. Donc, c'est pas sorti. Donc, il y a Things, la météo, parce que j'habite à Bruxelles. Donc, la météo, c'est super important. Tu ne te rends pas compte. C'est bien de savoir quand il y aura un petit coin de ciel bleu. Et puis, plan, parce que j'utilise plan. Alors, je sais que tout le monde utilise.
Map.
Ouais, Maps, ouais. Ah oui, alors ça, c'est un autre truc. J'ai passé mon iPhone en français depuis 2 semaines.
D'accord.
Je suis tout à fait perdu, parce que je l'avais toujours eu en anglais.
D'accord.
Parce que c'est synchronisé avec mon ordinateur, etc. Et que je préfère l'avoir en anglais, parce qu'en général, les podcasts que tu écoutes et les références, c'est effectivement, sont en anglais. Donc, la bonne chose dans un iPhone, c'est quand tu cherches en anglais sur un téléphone en français, il te trouve quand même l'application qui correspond en français.
Oui.
Donc, ça, ou l'inverse. Et la raison pour laquelle je l'ai passé en français, c'est que, comme j'utilise beaucoup iMessage, je sais, ça paraît vieux, mais comme j'utilise beaucoup iMessage et que maintenant il retranscrit tes vocaux,
oui,
ça ne fonctionne que si ton téléphone correspond à la langue que tu utilises pour tes vocaux.
Or, ça retranscrit les vocaux ? Je sais pas.
Oui, c'est vrai.
Tu laisses un vocal.
Tu laisses un vocal.
Et ça te fait un transcript écrit
Dans le message avec ton vocal. Donc si tu as. Moi, je trouve ça génial parce que si tu es en réunion et que tu reçois un vocal, c'est hyper frustrant, les vocaux. Les vocaux sur WhatsApp, c'est l'horreur.
Ah, mais oui. Moi, je fais la même chose maintenant sur ChatGPT, mais je ne savais pas que...
Ah ouais. Et donc, tu cliques dessus et tu as tout le retranscrit qui est nickel.
Ah.
Qui est nickel, ouais. Je sais que tout le monde se moque de Siri, mais effectivement, pour le coup, le retranscrit est nickel. Mais ça ne fonctionne que
dans si... Dans,
en tout cas, à ma connaissance. Et comme tous mes devices étaient en anglais, et que la plupart des gens à qui je les ai vocaux, c'est en français, ça ne fonctionnait pas. Et la raison, c'est que tu dois avoir ton téléphone qui... J'espère qu'un jour ils changeront.
le pouvoir de la langue et des amis, en fait, l'influence du réseau qui influe sur toi.
Donc j'ai ça, et puis j'ai Teams, que je n'aime pas du tout. Ah. Comment ça ?
Je n'aime pas du tout.
Mais ben, en tout cas, enfin, ça s'améliore depuis quelques années.
Il y a plein de raisons, ouais.
Ouais, je l'écoute.
Tu te rappelles, il y a un an, il y a un an et demi, 21, 2 ans, c'était quand même très dur, Teams. Maintenant, là, il y a quand même...
Non, il y a des choses...
Il y a des choses vachement bien.
Puis, ouais. Puis tu peux le connecter à plein d'autres choses. Ça dépend évidemment de l'écosystème dans lequel tu es, dans la société pour laquelle tu travailles, à un moment donné. C'est pas que l'application, c'est aussi la manière dont les gens l'utilisent. On va revenir, tu en parlais tout à l'heure, sur le knowledge management. Ouais. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est une application pour faire aussi du knowledge management. Il n'y a pas de tag dans Teams. Hein.
Non, donc c'est vrai.
Tu peux pas. Alors, tu peux l'intégrer, évidemment, avec SharePoint Online, etc., et faire un truc. Mais honnêtement, c'est pour moi souvent très, très mal utilisé. Et surtout, si tout est là-dedans, tu t'y perds. Mais bon, voilà.
Donc, toi, tu l'as pour l'émission, pour les...
Je l'ai parce que mon principal client, pour l'instant, utilise Teams.
C'est ça. Je pense qu'on a tous Teams parce que y a quelqu'un à Teams, quoi. C'est pas forcément une démarche perso.
Voilà, exact. Non. Mais cela dit, c'est pas que Teams. Je suis pas complètement fan non plus, j'avoue, de Discord. Je suis pas complètement fan de Slack, etc. Même si je les préfère en termes d'usage et même de design.
C'est dur de trouver quelque chose qui fait bien le job, hein, parce que il n'y a plus vraiment de leader, en fait. Hein. On est tous un peu revenus de ces community plateformes.
Ouais, parce que c'est trop du real-time pour moi, je pense. Et surtout, je ne retrouve rien derrière. Ouais. Vraiment pas grand-chose. Donc, difficilement. Ouais. Ça s'est amélioré. Hein. Il y a un nouveau Teams depuis une semaine qui est sorti, en tout cas sur Mac. Et effectivement, la recherche semble être...
D'accord. Être comme, mais je n'ai pas fait la mise à jour.
Et puis, j'ai LinkedIn, parce que c'est finalement le seul média social qui reste encore condamnable à mes yeux. Il ne reste plus grand-chose. Donc...
Twitter, t'étais dessus, tu y es plus.
Je suis.
Non, Twitter.
Non, pas du tout, pas du tout. Je suis sur Twitter depuis 16 ans.
Ah oui, donc non.
Tout début, j'avais même le @Frédéric et puis comme je comprenais pas à quoi ça servait, je l'ai changé. J'ai rajouté des lettres et puis je me suis rendu compte qu'effectivement c'était dommage d'avoir perdu le @Frédéric qu'on avait pris entre temps. Non, je suis dessus depuis 16 ans. D'accord. Je n'aime plus du tout. Je n'aime plus du tout depuis quelques mois.
Depuis quelques mois.
Parce que l'information que ça me pousse n'est absolument pas ce que je voulais voir.
Ouais. C'est dingue comment ça.
Donc il est passé page 2. Alors qu'il a toujours été dans le bas de mon iPhone depuis que j'ai un iPhone.
Ouais. Donc c'est quand même un home screen assez classique. On va passer sur tes lectures, en tout cas tes sources de lecture. Voilà, pas sur les lectures en général, mais tes sources de type newsletter, blog. Tu suis quoi, tu lis quoi par rapport à ton domaine de veille, ton secteur de veille tu peux peut-être en dire un mot. Là, on en a parlé un peu dans le vrai ou faux, mais t'es sur le knowledge management, t'es sur les communautés de pratique, donc forcément, tu dois avoir des sources sur le sujet que tu consultes régulièrement.
Ouais, alors il faut peut-être préciser un truc, c'est qu'effectivement, je suis effectivement sur les communautés de pratique et j'aime l'aspect stratégique des choses, la mise en place, à quoi faut-il penser, que faire d'abord, que faire après, à quoi faut-il faire attention, etc. Donc c'est l'objet d'ailleurs du playbook dont tu parlais juste avant. Mais je suis aussi assez convaincu de l'énorme importance de la... On pourrait appeler ça de la flexibilité ou de la rapidité à laquelle tu dois, en tant qu'équipe, en tout cas, gérant une communauté de pratique, tu dois être super flexible et super rapide.
Ouais.
Ça veut dire qu'en gros, je ne suis pas vraiment un consultant qui va te donner des conseils et puis dire « débrouillez-vous ». J'aime faire les choses. Donc, dans une communauté de pratique, suivant le système, l'outil que tu utilises, tu as énormément de visuels. Hein. Si tu as une communauté de pratique avec des jeunes... Je ne suis pas schématisé parce que les plus âgés aussi, mais c'est vrai que pour l'instant, je travaille beaucoup avec une communauté de pratique où il y a beaucoup de jeunes. Ils te disent, s'il n'y a plus de deux lignes, laisse tomber. Et surtout, il faut que ça soit visuel. Il faut aussi qu'une communauté de pratique soit visuelle. Donc, tout l'aspect visuel qui fait partie de ma pratique à moi aussi est super important. Donc, dans les choses que je suis, il y a toute la veille sur les communautés de pratique, mais aussi toute la veille sur les nouveaux outils qui te permettent de créer des visuels. Sur les contenus, pour répondre à ta question, en fait, je suis assez fan de Medium.
Ouais, tu es resté sur le format, mais qui est agréable. Hein, c'est...
Voilà, ouais. Mais de mon, je lis de moins en moins, j'avoue. J'ai plus d'abonnements payants, honte à moi.
Tu acceptes du coup à moins de choses, parce que Medium, c'est payant maintenant.
C'est, voilà, c'est exactement. C'est pour ça que je lis de moins en moins. J'ai plus ou moins réflexe tous les trimestres de remettre à jour mes flux RSS, etc. etc. Mais en fait, je n'ai jamais le temps de les lire. Twix, j'ai entendu dans un podcast, Twix c'était pas mal. Comme...
Bah alors, je connais pas du tout. Twix ?
Twix, bah, c'est l'abréviation de Twitter et X. Twix.
Je dis quoi des choses.
D'accord. Twix, ouais, ah, je trouvais ça drôle. J'avoue que ces derniers temps, je suis beaucoup sur TikTok.
Ouais, je suis assez. Ça, c'est un rabbit hole. Moi, je me suis fait attraper.
Ah oui, c'est...
Mais en plus, l'algo de TikTok, il est, je trouve qu'il est bien fait parce qu'il suffit que tu regardes 3-4 trucs que tu adores et il te repousse 3-4 trucs géniaux.
Oui, alors ça c'est toujours le souci. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vas à un festival de musique électronique, tu cherches le gars, ouais. Tu cherches le DJ que tu vas voir le lendemain sur TikTok et tu te retrouves avec un DJ. J'adore, c'est pas le problème, mais pendant 3 jours, t'as que ça, ouais, effectivement. Ouais. Au début où j'étais sur TikTok, comme je ne like pas grand-chose, hein, ouais. J'avoue, c'est assez passif. Bah, vu mon âge, effectivement, j'avais plutôt des jeunes filles qui m'étaient proposées, donc ça a disparu. Mais effectivement, ça c'est le truc peut-être pas drôle, mais ouais. tu viens me demander de dire ce qu'il y avait sur la première page de mon téléphone. Bah, ce qui est très très chouette avec ses amis, c'est de demander de montrer leur TikTok. Ça me permet de voir effectivement s'ils ont réellement regardé. Bon, cela dit... Parfois,
ça c'est une bonne idée, ça. Tiens,
ça c'est pas bête.
Tiens, prochaine.
Non, mais tu ne le demandes pas maintenant, on n'a plus le temps. Mais donc voilà, TikTok, Instagram, ouais. Instagram toujours en fait. Et j'avoue que l'algorithme est très très bien foutu. Alors, je l'utilise principalement justement pour toute ma source de petits trucs et astuces Illustrator. Et je suis chaque fois super content, tous les jours, hein, j'ai des trucs.
Donc, tu utilises TikTok et Insta comme des sources de lecture, finalement, ou de contenu. Enfin,
de contenu.
Tu vas faire ta veille un peu
sur... mais plutôt des contenus tech, plutôt des contenus sur les visuels, etc. Pas des contenus genre conférences ou autre, non.
Ouais, donc parce que tu parles de visuel, tu peux expliquer en deux mots, parce que ce que t'expliquais, c'est que... cette partie visuelle pour toi dans ton métier, elle est cruciale, quoi. Elle est, fait que tu es obligé d'avoir de l'inspi.
Oui, alors tu as deux types de visuels, mais tu as différentes choses, effectivement. Donc il y a à la fois l'habillage d'une plateforme, parce que les plateformes, tu dois les habiller, t'arrives toute vide, forcément. Et donc toute l'identité visuelle de ta plateforme, j'adore faire ça, c'est assez nouveau en fait. À la base, en fait, je fais plutôt de ce qu'on appelle de la modélisation visuelle. C'est-à-dire, tu as un concept, tu as un projet, tu as un pitch à faire à un client, tu as une idée à résumer, à synthétiser, etc., etc. Et donc, j'adore effectivement créer des posters, des visuels. Et je viens en fait du sketching. J'ai fait ça pendant des années. Donc, sketcher en temps réel, effectivement, des idées, des conférences. Et au début, je faisais ça effectivement sur papier avec des crayons de couleur, en gros. Et puis, je suis passé à l'iPad. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait structurer très très fort et j'utilisais de plus en plus des outils digitaux.
D'accord.
Voilà.
Ouais, et donc du coup, t'es en veille sur ça et est-ce que t'as tu dis que sur côté newsletter, enfin contenu blog, t'étais sur Medium, maintenant t'y es moins. Substack un peu, non?
Quelques newsletters, mais assez peu en fait, parce que j'aime beaucoup apprendre les choses de manière... on parlait beaucoup de la sérendipité au début, hein, etc. Mais j'ai toujours ce mode d'apprentissage, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien quand des contenus me sont proposés que je n'aurais jamais été forcément recherché ou qui sont parfois très, très éloignés du contenu original. Et avec les newsletters, forcément, c'est toujours... Alors, j'ai tendance à m'abonner à une newsletter, la lire pendant quelques temps et puis me désinscrire pour passer à une autre.
Ah, t'as le réflexe. Tu le laisses pas pourrir pendant des...
Non, je suis hyper organisé. Je termine ma journée avec ma boîte mail vide.
Non, toi, t'es en zéro inbox.
Ah ouais, je suis en zéro inbox. Ouais. Le matin, je commence par ça et je termine par ça. Alors, il y a toujours deux, trois qui restent.
Tu n'utilises pas ta boîte mail comme Knowledge Management Center, quoi.
Non, mais ça n'a pas été designé pour ça, donc c'est ça qui est dingue. Mais
je dois avoir 111 000 mails, les gens quand ils voient ça.
Ah oui, non, moi c'est zéro, ouais. Mais par contre, tout ce que je dois suivre, effectivement, se retrouve relié dans mon Things dont je parlais tout à l'heure.
Ah oui, ouais.
Donc okay. C'est ça qui me permet de retrouver effectivement les choses.
Et
il y a un truc quand même, sur l'apprentissage. Donc évidemment, je passe d'un truc à l'autre et puis j'essaie de lire de temps en temps aussi des magazines. Donc je me suis abonné.
Des revues.
Papier quoi.
Readly.
Comment?
Readly.
Readly. Donc c'est une app où tu t'abonnes. C'est le petit Spotify du magazine.
Ouais. Alors en France, on a un truc. Je sais pas si j'ai quoi, si ça s'appelle Caféine.
Je connais pas.
Ah, Readly, ça existe avec.
Readly, ouais. Il y a toute la presse française.
Il y a toute la presse française dedans.
Ah, toute la presse. Okay.
Il y a un abonnement.
C'est un abonnement, je crois que c'était. Je l'ai arrêté là. C'était 13, 15 euros.
Ok. Est-ce que tu as des abonnements payants sur des newsletters ou des choses.
Sur des newsletters, non. J'avoue, non. J'ai. Non.
Et des. Ouais.
Non. Non. Non, je suis assez intrigué par un nouveau truc, hein, c'est ce qui s'appelle les collaborative articles on LinkedIn.
Oui.
Tu veux passer?
Bah oui, tu me l'as poussé, ouais.
Oui, c'est vrai.
J'ai dit, mais c'est quoi? Et c'est fait par des gens derrière ou c'est l'algo qui te montre ça
Écoute, je sais pas trop. Apparemment, donc c'est je pense qu'ils l'ont poussé il y a un mois ou un truc comme ça. C'est assez récent.
Ouais.
Donc les personnes qui écrivent. L'article au départ ont été sélectionnés par LinkedIn, par qui, comment, j'en sais rien. Et les personnes qui peuvent contribuer sont aussi elles-mêmes sélectionnées par LinkedIn. Parce qu'effectivement, je n'ai pas trouvé au départ comment et j'ai reçu une invitation. Alors, à mon avis, il y a un algo qui détecte qui va voir quel type d'article et après, au lieu de recevoir un badge, en gros, tu reçois une invitation
pour
commenter l'article. Ce qui est intéressant, c'est que l'article est découpé en différents chapitres et que tu peux commenter sur l'ensemble de ces petits chapitres. C'est un nouveau format que je trouve assez intéressant. Je me demande vers quoi ça peut aller, mais c'est une belle manière de faire un contenu sélectionné, propre. Et on en revient sur ce que je te disais tout à l'heure sur les communautés de pratique. C'est pour ça que moi, je pense qu'il y a quelque chose de potentiellement gros qui pourrait arriver. C'est qu'on entend quand même beaucoup autour de nous, je ne sais pas toi, mais de gens qui te disent « Je veux bien s'aller sur un truc collaboratif, mais je veux que ça soit un safe place. Je ne veux pas avoir des trolls inconnus qui viennent de partout. » je m'exprime dans un endroit où je connais les gens. Et donc, j'ai l'impression que cet aspect non pas censure, mais cet aspect effectivement qualitatif et sélection au niveau de la qualité, ça ne veut pas dire que mes commentaires seraient forcément toujours qualitatifs. Je n'ai pas dit le contraire, mais ça...
Mais c'est intéressant. C'est ce qu'ils font, ça augmente. On a effectivement, dans les communautés, on n'a pas une saturation de qualité tout le temps. Donc, plutôt une saturation de quantité de messages quand ça marche bien. Mais alors, pour arriver à dégager... Ça fait un peu user generated content, là, comme on dit.
Mais ça fait ça, ouais.
Un peu bien foutu. Ok, donc ça, c'est tes lectures, l'histoire de tes lectures.
Ça, c'est mes lectures newsletter, mes lectures, on va dire, web.
Web, ouais. Ta veille un peu.
Ma veille, mais j'y passe pas tant de temps que ça, en fait, j'avoue. T'apprends aussi énormément.
Et tu sais ce que tu cherches aussi.
Ouais.
Tu vois, là c'est la sérendipité, c'est... se nourrit du fait qu'on ne sache pas ce qu'on cherche. Quoi. Donc quand on est un peu plus focus, c'est vrai que ça doit être... Et tu as des livres un peu qui t'ont inspiré, qui ont structuré ta pensée
Et en fait, tu m'as envoyé là, effectivement quelques questions. Donc je me suis dit, c'est quoi les livres qui... Je me suis dit, oh là là, je suis mort, parce qu'il y a beaucoup de ces livres qui datent un peu.
Ouais.
Qui datent, enfin tout est relatif. Le plus vieux, c'est Laws of Simplicity de John Maeda, je pense, c'est ça qu'on dit, qui est un ancien ingénieur de Philips.
D'accord.
C'est un tout petit bouquin sous les lois de la simplicité que je recommande vraiment. Et c'est un petit bouquin que tu peux franchement reprendre régulièrement quand tu démarres un projet, quand tu es sur un design, etc. Il est vraiment passionnant, très facile à lire, vraiment chouette.
Okay.
Et j'étais évidemment à l'époque aussi, plus ou moins à la même époque, très inspiré par un bouquin de Dan Rome qui s'appelle The Back of the Napkin, qui est le principe de dessiner un truc très simple.
Sur un morceau de serviette.
Sur un morceau de serviette. Très, très bien. Puis, et là, on est sur avant 2010. Hein. Donc, voilà. Et en fait, le métier que je fais aujourd'hui, que je fais depuis plus de 10 ans, il a été super fort inspiré par le bouquin Entreprise 2.0 de McAfee. Moi, j'y ai cru complètement. Je me suis dit, on va mettre des Facebook dans les entreprises, ça va fonctionner. Et mon premier projet, ça n'a pas fonctionné du tout, en gros. Et je me suis dit, mais pourtant, j'y crois, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et c'est comme ça, en fait, en travaillant avec pas mal de gens différents, etc., que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même moyen que cela fonctionne. Mais ce bouquin m'a vraiment, pas seulement inspiré à l'époque, mais vraiment été un déclencheur dans tout ce qui est maintenant, aujourd'hui, communauté de pratique, mais qui était... Et qui est toujours aussi l'adoption de nouvelles méthodes de travail.
Ouais.
In fine, c'est ça. Hein.
On appelait ça comment dans les entreprises? C'était la...
L'entreprise collaborative.
Ouais, libérée. Ou...
Ah ouais, non, ça s'est venu un peu après.
C'est venu après, ouais.
Mais ça, ça arrive souvent que des mouvements se détériorent en ce temps et soient repris de manière un peu... Ouais, c'est ça. C'est un peu comme les ressources humaines,
ouais.
Auxquelles je fais encore beaucoup de consultance et où tout d'un coup, tu as les happiness managers. Et sinon, plus récemment, il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé et que je mets pas mal en pratique qui s'appelle The Neo-Generalist, qui a déjà quelques années. Hein.
D'accord.
Peut-être d'avant Covid. Juste avant. Le Neo-Generalist, donc le fait effectivement de faire pas mal de choses par toi-même, enfin, ce que je t'expliquais, hein, de faire pas mal de choses par toi-même, de découvrir par toi-même. Et.
Le do-it-yourself.
Le do-it-yourself, oui. Il y a des années, il y a une consultante qui m'avait expliqué que c'était le profil T, en fait. Et le profil T, c'est le fait, effectivement, que la barre verticale de ton T, c'est ce que tu vas vraiment approfondir, c'est le cœur de ta connaissance, de ton métier. La barre horizontale du T étant le fait de pouvoir te connecter avec d'autres types de connaissances, d'autres types de personnes. Et ce T, tu peux aussi l'agrandir, cette barre verticale, tu peux aussi l'agrandir. En augmentant tes connaissances sur des domaines qui te sont transversaux, en fait, qui ne sont pas forcément la base de ton métier. Je pense que c'est important de travailler sur les
deux.
Voilà, je peux continuer sur les bouquins, mais...
Les deux premiers, là, je pense que c'est des... La simplicité, là, comment ça s'appelait déjà?
Les lois de la simplicité.
Ouais.
Laws of simplicity, ouais. Je pense.
Ouais, bah les bouquins, c'est un rabbit hole, hein, on peut dérouler... je ne sais plus qui est-ce qui me disait dans le dernier... un épisode précédent qui n'aimait pas ça, c'est Camille Lambert, et qui me disait, moi je ne lis pas les bouquins de ce type-là, et c'est vrai que dans les épisodes encore précédents, il y avait deux types de profils, il y avait un profil peut-être un peu plus comme le tien, et le mien d'ailleurs, j'aime bien feuilleter ces bouquins-là, et puis d'autres qui disent, de toute façon dans le sommaire on a tout vu quoi.
Ouais, mais ça c'est vrai, et d'ailleurs c'est une très bonne manière de, avant de lire un bouquin, de le sélectionner. C'est-à-dire que s'il n'y a que du texte,
tout le temps, moi, je ne lis pas.
Il faut qu'il y ait quelques schémas, quelques modèles. Évidemment, c'est ce que j'adore faire moi-même.
Ah, oui. Non,
mais ça, c'est un bon moyen de checker au départ. Il y a un bouquin génial. Il y a un bouquin génial, génial, que tout le monde doit lire. C'est Factfulness de Rosling.
Il y a quelque chose.
Mais je crois qu'il a une des TED. Les
Factfulness.
Factfulness, vraiment bien. Le monde, effectivement, on a toujours tendance à dire que le monde va plus mal. Et effectivement, il y a des choses horribles, il y a des choses qui vont très très mal pour l'instant.
Ça a été cité, ce bouquin, je m'en souviens maintenant, par Sylvain Tillon, dans l'épisode numéro, je ne sais plus, mais il l'avait mis en avant sur les faits. C'est un bouquin qui te rappelle un peu des bases
statistiques.
Statistiques,
Sur effectivement, les 100 dernières années ou autres. Ça remet les choses en perspective et ça te permet aussi d'aborder les choses de manière peut-être parfois un peu plus sereine ou optimiste et c'est pas mal. Et évidemment, vraiment le bouquin très bien designé, honnêtement. Très bien fait. Alors oui, je ne lis pas que des bouquins, il y a pas mal de trucs, des PDF qui circulent.
Des white papers,
machins. Alors il y a des choses horribles, mais il y a parfois des très 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 bons trucs.
Ouais, des fois tu tombes sur des gold mines.
Exactement. Il y a un gars dans une communauté de pratique que tu connais justement, Wegner, qui a sorti un nouveau PDF d'ailleurs, il y a quelques semaines. Ouais, c'est assez récent, comme moi.
Très bien
en fait, ce PDF. Là aussi, j'utilise Books d'Apple. En fait, Apple m'a complètement enfermé.
L'écosystème Apple, ce qu'on se disait tout à l'heure, ils ont parfait leur système à un tel point que ça devient une méta-app.
Exactement.
Enfin, l'écosystème, c'est... Donc ça, c'était... tout ce qui est vidéo, audio, podcast, ouais, j'imagine, tu écoutes.
Vidéo, YouTube, jamais. Il faudrait que je...
Mais pas dans le canapé, comme ça, avec la zapette, tu lances...
Jamais.
T'as pas cette pratique?
Jamais. Je supporte pas les publicités. Et je suis pas accro à certaines chaînes suffisamment que pour prendre l'abonnement. c'est déjà beaucoup trop de sources, je pense. Donc, non, YouTube, c'est super, super, super rare. Et puis, je trouve ça un peu long, en fait, souvent, les vidéos YouTube. Donc, les vidéos qui sont postées sur YouTube, je trouve ça un peu long. Et j'ai pas le temps de les regarder ici dans mon canapé, même si je regarde énormément de séries, parce que j'adore ça, et de films. Donc, je suis plutôt podcast. Alors, sur les podcasts, sur les podcasts, j'ai mes petites habitudes. Je suis super, super, super accro depuis des années sur un podcast belge qui s'appelle, mais qui est écouté aussi beaucoup, beaucoup en France, mais qui s'appelle 5 heures, 5 heures cinéma. Enfin, le nom, c'est un podcast de la RTBF.
D'accord.
Avec, qui est fait par deux gars depuis, je pense, non, si c'est pas quasi 30 ans. Non, enfin, avec lui maintenant, j'ai un doute. Bref. C'est un podcast sur le cinéma.
Sur le cinéma. Mmh.
Donc, c'est critique cinéma, critique série et critique musicale maintenant, sur les nouvelles tendances musicales, etc. Et les critiques cinéma sont faites avec beaucoup d'humour. Alors, évidemment, la qualité est faite en studio, donc la qualité est assez, assez incroyable.
C'est en français ?
C'est en français. Et il y a un franc-parler que tu ne retrouves pas du tout, dans la presse française.
D'accord.
Donc, ça fait du bien. Bon, évidemment, voilà, j'ai grandi avec ce podcast. Aujourd'hui, ce qui est assez, assez intéressant, on peut revenir sur les podcasts, c'est qu'ils en font un tous les jours. Donc, c'est tous les jours.
C'est un daily podcast.
C'est un daily podcast depuis un an ou deux, je pense. C'est un daily podcast, mais ça te fidélise à mort, en fait. Parce que ce qui est super important dans un podcast, c'est la régularité.
Ah, mais ça, je crois profondément au daily thing. Pour l'avoir testé sur une newsletter pendant le confinement, je m'étais dit, je vais en sortir une par jour. De toute façon, j'ai du temps. Et c'est comme ça que j'ai développé mon audience, en fait. C'est très puissant. Parce que, effectivement, les gens, une fois qu'ils savent que tu publies tous les jours, ils attendent. Tu as des effets composés. Et alors pour un podcast, je l'avais pas vu ça, je l'avais jamais entendu.
C'est assez récent.
Le podcast, j'adore le format.
C'est limite une radio, quoi. Mais en fait, c'est un podcast qui est fait par la radio.
Oui, c'est ça, voilà. C'est
francophone, ouais. Belge. Oui, effectivement, ils ont énormément développé les podcasts à la RTBF. Je te le conseille. J'écoute aussi des podcasts de la presse officielle, entre guillemets, française. Hein, comme je trouve que les podcasts de l'Express, personnellement, sont assez qualitatifs. Enfin, il y en a plein. Mais celui-là, je suis vraiment accro.
Et des podcasts indés, des gens
Ben, j'aime beaucoup et j'ai honte sur moi parce que j'ai toujours pas mon profil. Comment ça s'appelle enfin, bref, j'aime beaucoup le podcast Rendez-vous Tech.
Ouais, Rendez-vous Tech, ouais.
Que je trouve très frais, très.
Ouais, c'est un classique.
Très intéressant et j'aime bien sa manière d'aborder la tech tout en donnant une critique, effectivement. C'est un classique, mais ça fait partie d'un de mes classiques et effectivement, je n'ai toujours pas mon abonnement à. Comment ça s'appelle les trucs qui te permettent de payer, j'ai oublié le nom. Bref.
Ouais.
Donc, ça, c'est un podcast tech. Donc, effectivement.
Que t'écoutes en faisant du sport ou...
Que j'écoute souvent, effectivement. C'est assez classique ce que je veux dire. J'écoute des podcasts pour m'endormir, parfois.
Ouais.
Ça fait partie d'un des moments où j'écoute le plus de podcasts. Et l'autre moment, c'est quand je suis dans les transports en commun.
Ouais.
Ou mon vélo, effectivement. Et ou dans la voiture.
T'y crois aux podcasts vidéo, toi, ou pas? Tu t'en consommes ou pas?
Non. Non. Ouais. Enfin, si tu considères qu'une vidéo d'une minute sur TikTok est un podcast.
Ah oui, non.
Non, moi, les podcasts vidéo, j'y crois pas trop. Parce que c'est pas mon usage.
Et même pendant le confinement, tu regardais pas plus de...
Non, encore moins, je pense. J'ai presque tendance à dire que j'y crois encore moins maintenant, après le confinement, qu'avant.
Ouais.
Parce que je passe toute la journée... Je travaille à, j'allais dire 99%, à 99% de mon temps à distance. Donc, je suis tout le temps devant un écran, tout le temps. Et j'adore regarder des séries. Ouais. Donc, si en plus je rajoute ma veille...
Mais c'est hyper intéressant, parce que là, en fait, il y a énormément de possibilités pour les créateurs de devenir des médias eux-mêmes. Hein. Donc, c'est une commodité que de faire de... une chaîne YouTube, de faire des émissions. Hein. Donc, du coup, c'est le choix du riche. Quoi. Tu te dis, je fais un podcast, je le fais en audio, je le fais en vidéo, je fais les deux. Finalement, en fait, on se rend compte que l'usage derrière du podcast, c'est l'audio. Quoi. Point.
Et voilà. Ça peut toujours penser à ces entreprises où des personnes disent, je ne pourrais pas venir à la réunion, mais est-ce que vous pourriez l'enregistrer pour que je regarde la réunion après? Tu te dis, mais ils dorment quand?
Ouais.
Et je ne suis pas certain que les gens le fassent. En revanche, il y a un usage peut-être à développer ou une application à développer pour Teams, hein, que sais-je,
oui.
Que tu puisses enregistrer effectivement et diffuser sous forme de podcast et écouter quand tu es dans le transport le matin, etc. ou autre.
Ouais.
L'enregistrement
le replay
précédent.
Le replay, pourquoi pas, pourquoi pas.
Ouais, ouais.
Donc ça, c'est là, on était sur la partie lecture, grosse partie de lecture et on va dire contenu. Sur la partie appli, tools.
Alors, tools, bah, things, je t'ai dit.
Things, ouais.
Notes, beaucoup.
Ouais.
Avant Day One, hein, que j'utilisais, ouais. Que j'utilisais beaucoup, que j'utilise plus parce que je trouve que Notes fait vraiment très bien le boulot et j'aime ouais. bien la simplicité.
Ouais.
Et je trouve que c'est un peu compliqué la vie. À avoir des apps qui faisaient plein de trucs, des millions d'apps sur son iPhone ou sur son ordi, et puis finalement tu l'utilises peu, ou ils s'entrechoquent, entre guillemets. Donc,
oui, c'est ça, t'as
donc il faut simplifier. Bon, voilà, je peux pas me passer de Miro.
Ouais, parce que tu as un facilitateur, tu as besoin de.
Ouais, je suis un facilitateur, mais c'est pas que pour les workshops, c'est aussi pour.
Tu utilises pour un autre usage ?
Bah ouais, toutes les réunions en fait.
Ouais,
beaucoup de ces réunions, la prise de notes en commun,
ouais,
etc.
Tout à fait.
Et j'aime pas trop les notes, enfin, forcément, c'est ce que je fais, mais j'aime pas trop les notes linéaires,
oui.
je les relis pas. Oui. Donc le fait de, dans une réunion, de mettre des post-it, de les relier, de schématiser.
De colocaliser dans un même espace,
ouais.
C'est vrai que c'est puissant. Ouais.
Ouais. Quand tu fais des visuels, Miro, par exemple, est génial pour avoir des feedbacks de tes clients. C'est-à-dire qu'effectivement, même si Adobe. Donc ça, c'est le gros de mes abonnements, c'est Adobe. Hein, mais effectivement, tu as tout le système effectivement, de commentaires
ouais.
que tes clients peuvent te mettre sur des visuels, etc. etc. Ça ne remplace pas, je trouve, le côté visuel, l'aperçu global de l'ensemble des visuels où tu peux rajouter des notes facilement, expliquer à ton client, envoyer le lien. Je l'utilise aussi de manière asynchrone, en fait, Miro.
Ouais.
Alors, j'avoue que j'ai commencé à découvrir Freeform de Apple.
D'Apple, ouais.
À mon sens, c'est peut-être moins quelque chose sur la collaboration que Miro.
Mm-hmm.
Miro, franchement, je suis complètement addict et je trouve qu'ils ont vraiment développé. Même l'AI,
je suis arrivé au bout. Ouais.
Même l'AI dans Miro est assez. C'est bleu.
Ah tiens, je peux essayer, ouais.
Ouais, t'as plein de d'outils différents, comme créer une image.
Oui.
Si tu dois créer un visuel, si tu utilises Miro pour faire des slides, hein, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est un usage d'ailleurs Miro. Peut créer tes slides dans Miro et puis utiliser ça exactement comme un PowerPoint, sauf qu'il est effectivement plus interactif by design.
Ouais, t'as une petite appli, t'as un triangle, t'appuies, ça fait un diapo, quoi.
Ça fait un diapo, oui, t'as une fonction présentation, effectivement, où tu peux accompagner les personnes à qui tu présentes quelque chose, mais tout en leur permettant de contribuer sur la page qu'ils voient. Ça, c'est une chose, mais dans Miro, c'est en bêta, hein, mais... Si 50 personnes mettent des post-it, tu sélectionnes tous les post-it, tu lui demandes de rajouter des hashtags et de les classer par hashtag, par exemple. Ça va super bien. Ou tu fais un mind map dans Miro, tu commences, tu mets ton thème au milieu, tu rajoutes 2-3 points qui te viennent à l'esprit, tu es bloqué, tu demandes à l'AI de Miro de rajouter 2-3 points pour qu'il t'aide à te débloquer dans un workshop, par exemple, d'innovation, de créativité, etc., etc. Donc, ça débloque vraiment les choses.
Et moi, ouais, j'ai une question pour toi. C'est est-ce que tu referais, ou tu en fais peut-être déjà toujours, des workshops physiques de facilitation avec des vrais post-it sur le mur.
Mmh.
Est-ce que Miro a jet-lagué complètement la facilitation physique ou qu'est-ce que tu choisis, toi, si tu préfères préfère le faire avec Miro parce que clairement, franchement, ça capitalise l'info, ça la structure, ça. Ou tu te dis non, il y a un truc qui fait que le momentum physique c'est pas remplaçable. Ou... C'est quoi ton avis? Parce que moi, du coup, j'ai parfois vraiment la tentation de me dire que on perd parfois un peu de temps dans les workshops physiques et qu'on s'amuserait presque à faire du Miro physique. C'est-à-dire,
ouais.
Ouais, être tous connectés dans une salle en train de faire du Miro.
Ah ouais, mais complètement, ouais. Bah, c'est difficile, en fait, ta question, parce que...
Ouais.
Je préfère effectivement Miro, je préfère rester chez moi ou coworking ou whatever, mais je trouve que c'est plus efficace, les gens n'ont pas forcément de temps, donc tu arrives à faire un workshop de manière plus simple, peut-être plus court, sans que les gens aient à se déplacer,
oui.
Donc tu as accès à plus de monde, potentiellement, et tout le monde potentiellement, on peut participer plus vite.
Mm-hmm.
Tes notes sont plus clean. Tu peux l'exporter, etc. etc. Donc, il y a plein d'avantages. En revanche, effectivement, tu loupes un peu le côté informel. Bon, tu loupes pas un peu, tu loupes franchement le côté informel.
Oui.
Le côté relationnel, humain,
oui.
Des choses.
T'as pas le momentum. Mm.
Ouais. Mais t'as déjà fait de l'hybride ? C'est-à-dire, t'es dans une pièce, t'as un énorme screen et t'affiches miro dessus.
Ouais.
Et tout le monde contribue avec son PC.
Ouais.
Ouais, ouais, bah c'est les gros questionnements dans la plupart des entreprises. Hein, c'est...
Jamais fait, moi.
Ah non, j'ai jamais fait ça.
Ça va.
Alors, ou alors, vraiment en réunion, tu vois, tu partages ton écran, mais en vrai, ouais, tirer la ficelle de ça, je pense que tu peux aller loin.
Ouais, alors les écrans, les grands écrans de Cisco, de Microsoft, enfin, il y a plein de marques qui développent ce genre d'écran tactile, etc. Ça, honnêtement, moi, j'ai jamais été très, très fan parce que effectivement, ça fonctionne pas
aussi fluide. Oui.
Les ordinateurs, j'aime pas trop non plus parce que le côté relationnel, justement, que tu recherches lorsque tu es en présentiel, tu le perds. Tu as tout le monde qui est derrière son ordinateur. Avec un iPad ou une tablette,
t'as encore l'attention.
Là, ouais. Mais il faut que chacun
soit tactile. Quoi,
ouais. Il faut que chacun ait effectivement son device, je trouve.
Ouais.
Et là, ça devient possible.
C'est hyper intéressant. Donc la suite Adobe là,
la suite Adobe, enfin moi je
en long là je suis travers là.
Ouais, moi je suis vraiment enfin en long là, je trouve pas tout hein,
pas tout,
pas tout quand même
la créative suite
mais je trouve que ça s'est vraiment très très bien développé. Autant au départ la complexité d'Adobe,
les menus tout
petits, tout moche,
c'est ça,
c'était difficile,
puis là ça rachète Figma.
Ouais. Exactement, ouais. Mais ça, on verra. C'est encore un peu tôt pour savoir comment ça va se développer. Mm. Mais en revanche, effectivement, si tu regardes Lightroom, Illustrator, InDesign, etc., et surtout la partie mobile qu'ils ont développée, donc à la fois avec parfois la version classique, mais toujours la version mobile, mais qui continue à se développer, le fait que tu puisses effectivement très facilement passer, en tout cas pour certaines d'entre elles, Illustrator par exemple, de ton iPad à ton ordinateur, de manière très fluide. Moi, je trouve que l'écosystème devient très puissant et, à mon avis, est un écosystème qui est un devenir bien plus grand que les suites bureautiques qu'on a appris quand on était petit, qui aujourd'hui sont pour partie, en tout cas, un peu obsolètes, un peu désuètes. Le mot désuet étant désuet lui-même. Donc, effectivement, je ne sais pas, mais Je pense qu'il y a un énorme potentiel et les résultats sont incroyables. L'intégration des dernières semaines de l'AI dans les outils Adobe est vraiment très très impressionnante.
Ouais, sur la générative AI, sur le dessin, c'est vrai qu'ils ont ils ont pris de l'avance et ils sont encore dans la course. On va parler un peu des personnes, des influenceurs de ton secteur que tu suivrais. T'en as quelques-uns des people to follow, des gens, par exemple, là, tu vois, on a discuté de ton domaine, le CAM, les communautés. Si moi, je devais diguer ces sujets-là, tu me dirais, vas-y, suis ces trois-là.
T'as un sujet particulier, je pourrais pas te sortir un million de noms comme ça, je pense. Moi, il y a des choses que je suis, que j'aime beaucoup, parce qu'ils apportent toujours, et ils ont apporté depuis longtemps, des choses nouvelles et intéressantes, et qui sont dans mon domaine. Mais je suis quand même encore toujours après autant d'années Dave Gray par exemple. Beaucoup j'ai lu ses bouquins, j'aime bien ce qu'il fait. Il est en train de sortir sur Kickstarter justement. J'ai backé le truc.
D'accord, il a une campagne.
Il a une campagne qui vient de se terminer d'ailleurs avec beaucoup de succès. C'est un jeu de cartes avec tous les modèles visuels effectivement qui te permettent d'aborder différents sujets. Je l'ai pas encore testé puisque j'attends avec impatience qu'il arrive. Mais Dave Gray, de manière régulière, m'a souvent impressionné par la capacité de raconter des choses de manière simple et d'arriver vraiment au cœur des choses et de se poser les bonnes questions. Donc ça, effectivement, c'est quelqu'un que je suis avec plaisir. J'ai toujours suivi. J'aime beaucoup Jason Fried aussi, depuis le bouquin Rework.
Rework.
Et d'ailleurs, eux ont toujours cette suite aussi collaborative.
Basecamp. Ouais.
Basecamp.
Ah, elle est magnifique cette suite.
Et là, quelque chose de spécifique, d'asynchrone.
Ouais, je l'ai utilisé en tant que freelanceur pour toutes mes missions.
C'est
vraiment bien pensé. C'est un peu cher, hein, c'est 100 balles par mois, je crois.
Ouais, c'est un peu cher. Ouais.
Mais ça bouge pas, hein, ça bouge pas trop. Un peu cher, tout est relatif. Moi, j'entends tous les gens me dire « Oh là là, quand même, 9 euros !» Oui. Ils sortent de la sandwicherie, tu sais, avec, leur, avec deux canettes de coca et un sandwich qui leur a coûté plus cher. Quoi. Donc, c'est parfois un peu
oui, oui, tout à fait.
Non, j'ai découvert un type que je ne connais pas du tout, qui a justement, d'ailleurs, une newsletter, on en voyait tout à l'heure, qui s'appelle, c'est un Hollandais, je pense, qui s'appelle Tijn... Comment est-ce qu'on peut dire Tijn, c'est son prénom. Chulker, je vois, quelque chose comme ça. Chulker. Et qui a une newsletter qui s'appelle The Mycelium, et qui est fait effectivement sur tout... Ça va t'intéresser à mort, je vais t'envoyer le lien. Effectivement, sur toutes ces interactions communautaires, sur l'aspect... et c'est un truc que j'ai pas mal travaillé ces derniers temps, sur l'aspect connecté de l'écosystème.
D'accord.
Et sur le système mapping, en fait. Et c'est vrai que le système mapping, j'ai suivi différents contenus et une formation donnée par des Allemands, je pense que ça s'appelle d'ailleurs System Mapping Academy, l'année dernière, qui m'a vraiment beaucoup parlé.
C'est pour ça que j'aime bien faire cet épisode, parce que je découvre des trucs, mais System Mapping,
Le System Mapping, oui.
System Mapping, c'est, tu poses un... C'est l'art de créer des systèmes, c'est ça ? Ou de mapper plutôt, de cartographier.
C'est de cartographier tout ce qui rentre. Je ne vais pas être le meilleur pour faire une définition simple, mais c'est de cartographier tout ce qui rentre dans un système, tout ce qui peut potentiellement avoir une influence sur un système, sachant que certaines choses vont avoir une influence sur une autre, etc. etc. Et l'idée, c'est de mapper justement les interactions, les influences que ça a. Donc plus tu manges du sucre, plus tu vas grossir. Mais si tu manges, j'ai pas d'exemple, et plus tu manges de sucre en même temps, peut-être plus ta conscience de grossir va augmenter, et donc du coup tu vas faire plus de sport.
Ça doit être super chaud de mapper tout ça, en fait, avec toutes ces...
Écoute, ils ont des use cases, en tout cas, c'est génial. Il y a dans ce genre de newsletter et autres, si tu tapes sur les systèmes mapping, ça te permet vraiment d'aborder effectivement une situation, d'aborder notre réel et la complexité de notre réel, hein, parce que la gestion de la complexité est quand même... très, 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 très importante. Ça te permet de l'aborder de manière complète et d'essayer de comprendre quels sont les patterns que tu vas pouvoir retrouver pour savoir vraiment, dans tout ce qui est en place, ce qui peut te permettre de faire évoluer le système, ce sur quoi tu devrais travailler en faisant évoluer le système. Et ce que j'ai bien aimé aussi là-dedans, ce que j'aime bien là-dedans toujours, en fait, même, c'est le fait que c'est pas forcément problem solving. C'est solution finding,
oui,
c'est-à-dire que tu vas pas forcément te focusser sur le truc qui fonctionne mal. Peut-être que le gars qui mange beaucoup de sucre, c'est parce que il se lève très très tôt le matin. Et pourquoi il se lève très très tôt le matin? C'est parce que il y a pas de piste cyclable pour aller au boulot et que du coup il doit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc peut-être le meilleur moyen que les gens mangent moins de sucre, c'est de faire en sorte qu'ils puissent aller plus facilement à leur lieu de travail en faisant des pistes cyclables. Enfin, il y a aussi des choses, en se focusant sur le positif, en disant, mais tiens, les gens qui prennent leur vélo, qui vont plus vite, en général,
mais le système mapping appliqué aux communautés, ça doit être incroyable, ça.
Sur les grosses communautés,
évidemment,
oui, parce que c'est
les jeux d'influence, les jeux de pouvoir,
mais c'est très compliqué à mettre en place, parce qu'il faut effectivement avoir beaucoup d'intervenants, à tenir compte que tu t'adresses à l'ensemble des personnes de ta communauté, encore faut-il les définir.
Ce sera un autre épisode, tu reviens.
Et en même temps, alors c'est quelque chose. Moi, j'ai fait beaucoup de mind mapping et de visuels, de modélisation, etc. Beaucoup. La dynamique et l'approche assez systématique comme ça du système mapping m'a beaucoup impressionné, parce qu'en quelques heures, tu peux vraiment créer des modèles. Enfin, en tout cas, pas des modèles. Vraiment créer des cartographies de systèmes qui ne seront pas forcément 100% correct ou complet.
Ouais, bien sûr.
Mais tu peux te servir de la création, parce que tu fais ça en groupe, de la création de ta carte pour aussi tendre vers un certain consensus, ou en tout cas une vue commune des choses.
Ça fait converger un peu les points de vue, quoi.
Ça peut faire converger les points de vue, ou pas.
Ah oui.
Ouais. Ou pas.
On va dire la stack de loisirs, tu vois, là on était sur la stack pro et tout, bon t'as Spotify, t'es objet connecté à la maison, t'as des enceintes partout connectées à la voix, ou...
J'ai À la voix, j'utilise assez peu, non. Non, ouais. Non. Ouais, ouais, j'ai une belle enceinte qui, effectivement, ouais, parle à mon téléphone. Et ça, c'est vrai que toute la famille l'utilise. C'est super important. Je suis très connecté sur les lumières, en fait, effectivement. J'adore. Ouais. Hein, les Philips Hue.
Ouais.
Ça, je ne pourrais plus m'en passer. Je trouve que c'est vraiment génial. En plus, c'est du LED, donc c'est très bien. Et ça, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai équipé toute la maison de...
Alors, tu parlais tout à l'heure, pour parler de loisirs, là, tu parlais de l'émission RTBF sur le cinéma. Donc, tu es un grand consommateur de
séries et de films, ouais. Ouais, ouais, ouais.
Cinéma,
ouais. Alors, je suis assez fan de ce qui sort sur Apple TV.
Mais c'est ouais, oui.
C'est, ils sont assez gars.
Je plus soi, oui. Ouais.
Je crois que je commence Philo. Quasiment tout.
Philo.
Ouais. Mais alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'Apple TV, c'est assez clivant. Enfin, assez clivant par rapport à soi-même. C'est-à-dire que je suis toujours super enthousiaste quand ça commence. Et parfois tout aussi déçu après 2-3 épisodes. Ce qui arrive moins sur des choses un peu plus mainstream comme tu pourrais retrouver sur
oui,
sur les
Netflix. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais.
Donc j'ai pas tout aimé, mais quand j'ai aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu sur qui m'a vraiment frappé?
Slow Horses.
Ouais, effectivement.
Vous ne connaissez pas ça. C'est magique. C'est l'anti MI6 quoi. C'est là où vont les espions ratés qui oublient des sacoches dans le train.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais,
on se retrouve à l'étable. Je vous conseille cette série. C'est.
Ouais, j'ai regardé un. Je suis pas du tout foot. J'ai du mal à comprendre un match, pour te dire. C'est pas du tout dans mes habitudes. Mais c'est pas le cas autour de moi. Et donc, j'étais super intrigué de Ted Lasso.
Ted Lasso.
Comment ça se fait que ce truc, pendant des années, est resté numéro 1.
Ouais.
Et j'avoue, ça m'a complètement bluffé. J'ai trouvé
c'est vrai série... Je connais. Alors, tu vois, j'en ai...
Génialissime.
Ouais. Okay.
J'ai trouvé cette série vraiment incroyable. Ted Lasso. Quoi d'autre
Tu rappelles TV, il y a Silo. Tu as dû voir passer.
J'ai vu.
Qui a adapté du bouquin.
Ouais. 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 Je suis un peu abonné à tout. Ouais, j'ai adoré les séries produites par les frères Cohen. Fargo, par exemple. Ouais. Et donc la dernière saison n'était pas disponible en Belgique pendant quelques années. Elle est sortie sur Amazon, je pense.
Ouais.
Fargo, pour moi, la plus grande série du monde. Voilà.
Tu es allé voir Oppenheimer, non?
J'ai été voir Oppenheimer.
Ça vaut le coup? J'ai toujours pas vu.
Ah non, j'ai toujours pas vu.
Non.
Écoute, je suis allé le voir avec mon fils qui m'a convaincu et j'avais franchement pas énormément de motivation. Et je l'ai remercié 10 fois parce que effectivement, j'ai trouvé le film extrêmement bien construit. Et visuellement complètement bluffant. Et ce qui était super. Ah ouais, la raison pour laquelle tu dois le voir,
ouais,
j'adore ça, c'est que le son
est
magique.
Ah,
alors, t'es obligé de le voir dans une salle.
Ouais, ouais, tu regardes pas ça en streaming dans ta couette. Quoi.
Non, ça, tu n'aimeras pas en fait en streaming, à mon avis. Mais tu vas le voir dans une salle, je sais pas s'il le passe encore, je pense pas.
Ouais, ouais, non, j'ai loupé.
Ouais. Il faut le voir dans une salle super bien équipée, effectivement. Et,
Prochain film, c'est quoi? Napoléon? Tu iras le voir?
Non.
Hein?
Non, je pense pas. Je sais pas. Prochain film, j'ai aucune idée. Prochain film que j'ai voir, je pourrais pas te dire.
Ouais.
Je pourrais pas te dire.
Ouais, ouais.
J'utilise d'ailleurs, toi qui me demandais pour les apps, une app qui s'appelle Just Watch.
T'as dit quelque chose qui est là depuis un certain temps, je crois.
Ouais, mais qui est super bien designée. Et je me demande même s'ils n'ont pas maintenant des journalistes qui font certaines critiques. Et ça te reprend effectivement tout ce que tu peux retrouver sur les plateformes, mais toutes plateformes confondues. Donc en fait, tu sélectionnes tes différentes plateformes et tu vois au fur et à mesure tout ce qui sort. Et...
Tu as toi,
très pratique. Ouais.
Bon, bah écoute, c'était une stack bien, bien complète. Hein. Orientée KM, orientée facilitation, project management et puis communauté. Communauté de pratique.
Communauté de pratique.
Voilà, écoute, le mot de la fin, t'en as un on peut te retrouver, on peut te joindre sur LinkedIn facilement si...
Tu peux me retrouver sur LinkedIn, même encore sur X. Hein,
sur Twix.
Twix, que j'utilise. Ouais, je continue quand même un petit peu à regarder, mais ouais, tu peux me retrouver sur Twix. C'est effectivement Frédéric W. Et aussi sur LinkedIn, facilement. LinkedIn. C'est là que je vais passer le plus de temps.
Et je vous recommande le playbook que tu as écrit.
Que j'ai co-écrit avec 3 autres personnes, qui sont des personnes qui travaillent pour la Commission européenne, qui est un de mes plus gros clients. On est d'ailleurs depuis 3 ans, on a démarré from scratch, hein, une communauté de pratique avec la DG qui s'occupe de l'éducation sur l'éducation au climat. Qui s'appelle Education for Climate. Et on utilise, on n'a pas parlé de ces outils professionnels, mais on utilise Open Source comme outil.
Ah oui, toi, tu reviendras sur l'autre podcast. J'en ai un autre sur les communautés de pratique.
Je reviendrai sur celui-là parce que franchement, ça vaut la peine, je pense. Ça évolue, ouais. Ça évolue vachement.
Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, un grand merci, Fred. Et puis, je te dis à une prochaine fois.
À très bientôt quand tu veux.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour accéder aux sources de nos invités ainsi qu'aux transcriptions complètes et recevoir chaque nouvel épisode par email, alors une seule adresse, un seul chemin, rendez-vous sur techsource.io. En vous inscrivant gratuitement à la plateforme, vous débloquerez l'accès à toutes les ressources des épisodes de ce podcast. Enjoy !